les podcasts de l'Institut Balanides.
Bonjour et bienvenue, je suis Romain Mudrac et vous écoutez un podcast proposé par l'Institut Balanites, structure entièrement tournée vers la promotion des recherches scientifiques liées à la Grande Muraille Verte. Avec Didier Moreau, délégué général de l'Institut Balanites, et nos invités, nous allons aborder dans cette émission les enjeux de la filière cosmétique à travers le témoignage de différents acteurs, et aussi en quoi la recherche sur les végétaux du Sahel peut intéresser justement ces acteurs. Pour en parler, nous avons autour de la table Antoine Piccirelli, directeur scientifique de la Fabrique Végétale, Jean-Yves Berton, PDG de GreenTech, Pierre Naudet, directeur général des pépinières Naudet en Bourgogne. Didier, je vous cède la parole pour présenter un peu le sujet.
Oui, merci et merci à nos intervenants de leur contribution qui va sûrement éclairer celles et ceux qui viennent régulièrement sur notre site internet. Donc, comme vous le savez, la Grande Muraille Verte s'est dotée d'un outil de promotion de son réseau de chercheurs depuis déjà 5 ou 6 ans à travers l'Institut Balanites. Dès le début, j'ai toujours considéré qu'on ne pouvait pas parler d'avancement des connaissances sans imaginer un lien avec ce qu'on appelle rapidement la société civile, le monde économique et social, mais également d'aborder les questions culturelles et éducatives, parce que c'est un tout. Alors au niveau de la Grande Muraille Verte, on s'est rendu compte très rapidement en faisant le point sur les avancées scientifiques que les publications, en français maintenant on parle de trous dans la raquette, que les publications présentaient des trous dans la raquette, à la fois au niveau des connaissances, mais c'est logique, la science est là pour combler des lacunes, des manques, et surtout susciter des débats. Mais le trou dans la raquette principal que j'ai découvert, c'est l'absence de lien explicite avec le monde économique, un monde économique en pleine mutation, un monde économique porté par des personnalités qui sont soucieux de produire autrement, différemment, et de dialoguer avec celles et ceux qu'on appelle les acheteurs, des consommateurs, de dialoguer également différemment. Sur la forme, c'est la communication, mais également sur le fond, en indiquant quels sont les critères, les valeurs déontologiques, éthiques qui président aux destinées de leur société. Et c'est dans ce cadre-là que très rapidement, on a réussi en allant au gré des rencontres, on a réussi à trouver des personnalités qui s'interrogeaient tout à la fois sur l'évolution de leur propre société, mais qui également s'inscrivaient dans une perspective bien sûr nationale et internationale, et dans une perspective d'avancement des discussions. Alors cette table ronde aujourd'hui, pour moi, elle est très importante parce qu'elle ouvre des perspectives pour l'avenir. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes, entre guillemets, autour de cette table entre Français, mais que tout ce qui est dit au sein de l'Institut Balanites a vocation à être discuté et à entraîner au niveau de la jeune recherche africaine et des jeunes entrepreneurs africains, de nouvelles façons de dialoguer et de valoriser la Grande Muraille Verte.
Pour commencer, on pourrait faire un premier tour de table pour faire connaissance. Pierre Naudet, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelle est votre activité précisément à vous ?
Oui, du coup alors nous, Pépinière Naudet, Groupe Naudet, on est une entreprise familiale qui existe depuis bientôt 150 ans. J'ai la chance de représenter la sixième génération avec mon cousin Martin. Voilà, on a repris ce groupe en pleine croissance. Donc on a différents métiers. On est avant tout producteur de jeunes plants pour replanter en forêt dans le paysage. Donc des projets forestiers ou des projets de plantation de haies agroforestiers. Voilà, on a des équipes qui produisent les plants, mais on a aussi des équipes qui les plantent. Donc on est essentiellement en France, mais on fait aussi de l'export de ces jeunes plants un peu dans toute l'Europe. On a aussi un autre métier qui est la production de sapins de Noël, qui est un petit peu à part. Donc on produit des jeunes arbres en racines nues ou en godets. On produit entre 15 et 20 millions de plants chaque année, et on en met en terre entre 4 et 6 millions. Voilà, on a un peu plus de 300 dans l'entreprise, et on est présent sur toute la France.
Merci beaucoup. De votre côté, Antoine Piccirelli, La Fabrique Végétale, qu'est-ce que c'est ?
Alors La Fabrique Végétale, c'est une société que l'on peut qualifier d'open innovation, c'est-à-dire que nous, on va développer des ingrédients jusqu'à un stade qu'on pourrait qualifier de pilote, et ça va être des ingrédients végétaux qui doivent avoir un faible impact sur l'environnement et qui doivent avoir aussi de l'efficacité et bien sûr une efficacité économique. Et lorsque cette innovation, elle est développée au stade dont je parlais, pilote, ben on va la co-développer avec nos clients, qui sont principalement des fabricants d'ingrédients, comme la société GreenTech qui s'y présente, par exemple, ou des marques de produits finis, mais principalement des fabricants d'ingrédients. Donc le but, c'est aussi d'aller substituer les matières premières d'origine fossile dans les produits cosmétiques, in fine, d'apporter aussi de la naturalité et bien sûr un gain environnemental et sociétal, dans le sens où aujourd'hui, et je le rappellerai, la filière d'approvisionnement en matières premières est tout aussi importante que l'ingrédient au final.
Merci beaucoup. Et on termine avec Jean-Yves Berton, PDG de GreenTech. Quelle est votre activité, un peu la, quelle est la, la fiche de votre entreprise?
Alors, GreenTech va fêter ses 33 ans bientôt, ben, la semaine prochaine. Il y a 33 ans, on ne parlait pas beaucoup des biotechnologies, même si ça existe depuis longtemps. Hein. On boit tous du vin, de la bière, on mange du pain, etc. Et on consomme du fromage. Mais les biotechnologies, l'industrie biotechnologique n'existait pas beaucoup. Et après avoir passé mon doctorat de biologie, un postdoctorat en Belgique, et puis des expériences industrielles dans trois entreprises, j'ai créé GreenTech à Clermont-Ferrand, qui est ma région d'origine, en disant on va le green était, on va appliquer les biotechnologies dans différents domaines, l'agronomie, la pharmacie, la nutrition, l'environnement, et un petit peu en dernier, la cosmétique. Et finalement, c'est la cosmétique qui s'est beaucoup développée parce que c'est beaucoup plus réactif et beaucoup plus souple. Et le green de GreenTech était les plantes. Aujourd'hui, ça a changé un peu de signification. Et les tech, c'est la science, la technologie, etc. Donc, c'est la technologie appliquée aux plantes, ou plutôt issue des plantes, pour en faire des produits. Et les produits, nous, c'est des ingrédients. On ne fait que des ingrédients dans tous les domaines d'activité qu'aujourd'hui, on développe. Des ingrédients. En cosmétique, l'idée, comme l'a dit Antoine là tout à l'heure, avec qui nous travaillons, et on a lancé, j'en précise pour illustrer, qu'on a lancé un substitut là, de silicone, donc de produits chimiques, qui peut être un peu controversé aujourd'hui sur sa toxicité, un ingrédient à partir d'un sous-produit d'huile végétale pour en faire un produit, donc avec un toucher très intéressant, tout à fait similaire à ce qu'on peut avoir dans une formulation avec des silicones. Et donc nous, on va développer tout ça, et effectivement, comme l'a dit Antoine, c'est que la source, le sourcing est très très important. Donc nous, tout de suite, on a travaillé avec des partenaires, que ce soit en France ou à l'étranger, en respectant ces partenaires. Hein, je prends toujours une image, c'est que quand on fait une cuisine, en cuisine, la bonne cuisine vient des bons ingrédients. Et c'est pareil pour la cosmétique. Donc il faut qu'on ait des bons ingrédients en quantité disponible, dans les délais disponibles. Donc on va, on a toujours mis en place, nous, rapidement, je passe là-dessus, sur le partenariat avec nos fournisseurs, le respect de nos fournisseurs, qui eux aussi doivent nous respecter. C'est-à-dire qu'on attend ce que l'on a pu donner en termes, on a même joué les banques, hein, quelquefois, pour nos fournisseurs, on va les aider, ils doivent nous aider derrière en nous fournissant, encore une fois, les bons ingrédients, quantité, dans les délais nécessaires. Et donc, on va développer, on a toutes les grandes marques que vous pouvez connaître cosmétiques en France et dans le monde comme clients, plus de petites marques, plus des marques moyennes. Et à la limite, il n'y a pas de petites marques là non plus, parce qu'on a connu des petites marques qui aujourd'hui sont des marques, presque des grandes marques. Et on a eu la chance de participer à leur aventure et de se développer ensemble. Donc, l'ingrédient, c'est des ingrédients actifs qui sont aussi bien des hydratants, des antirides, des raffermissants, des amincissants, enfin tout ce qu'on peut imaginer dans des crèmes que l'on va sourcer dans le concept, mais aussi dans la matière première, et qu'on va développer après dans notre laboratoire à travers des analyses chimiques et des tests, bien entendu, cellulaires jusqu'aux tests cliniques pour montrer l'efficacité des produits.
Très bien. Pour continuer, j'aimerais qu'on parle un peu de perspective. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est au symposium 2025 de l'Institut Belenites. On parle des sciences de la Grande Muraille Verte. Quel potentiel voyez-vous à travailler avec certains partenaires africains, là, aujourd'hui? Vous les avez rencontrés. Quelle est un peu votre motivation pour être là aujourd'hui? Et finalement, voilà, quelle perspective vous voyez déjà travailler avec les partenaires africains, en tout cas avec la recherche scientifique africaine?
C'est vrai qu'aujourd'hui, en tant que pépiniériste et planteur, on voit, nous, rien qu'en France, les défis que ça peut représenter, puisque même si on n'a pas les mêmes conditions qu'en Afrique ou au Sahel, on a des vraies problématiques à la fois de production en pépinière et aussi de reprise des jeunes plants qu'on va planter en plantation, voire même de contraintes de protection de ces plants contre des ravageurs. Nous, c'est plutôt le gibier ou les animaux d'élevage en Afrique, mais c'est la même chose, c'est le même combat. Et c'est vrai que nous, on bénéficie de tout un réseau de chercheurs en France qui ont fait évoluer nos techniques de production, de plantation. Et ça continue à évoluer. On se pose aussi la question des bonnes essences à planter, des bonnes provenances de plants, de la bonne sélection génétique. On voit que tout ça, c'est déterminant pour la réussite des plantations et de nos forêts pour l'avenir, qui sont quand même victimes du réchauffement climatique et qui malheureusement doivent être renouvelées. Donc ça, c'est chez nous. Et je pense qu'aujourd'hui, dans des zones qui sont déjà un peu désertiques, où il faut se mobiliser comme le projet de la Grande Muraille Verte, il y a un vrai sujet à ce niveau-là. Alors effectivement, il existe déjà des pépiniéristes, il existe déjà une production de plants, mais peut-être pas au même niveau que ce qu'on peut avoir ici. Voilà, aujourd'hui, il faut savoir qu'en France, il y a des normes de plants, on ne peut pas planter n'importe quoi. Il y a des normes de racinaires, de diamètre, de taille. On a fait évoluer aussi nos techniques de préparation de sol pour limiter aussi l'impact des préparations de sol, mais favoriser l'infiltration des eaux de pluie avant ou après la plantation. Et on continue encore à travailler. Et j'ai d'ailleurs rencontré ici des scientifiques qui travaillent avec des producteurs de plants de vignes pour favoriser la rétention en eau de ces mottes en fait qu'on va planter avec le plant. Tout ça m'amène à penser que nous, ici, on est capable d'amener un savoir-faire et coopérer avec les équipes locales qui travaillent sur la Grande Muraille Verte pour produire un plant de qualité, un plant aussi accessible économiquement, parce que ça, c'est important. Si on veut avoir de l'impact, il faut aussi que ce soit accessible et permettre un meilleur taux de réussite des plantations qui sont réalisées là-bas.
Antoine Picciarelli, même question.
Oui, alors je dirais que lorsqu'on est dans l'innovation et dans le végétal, on ne peut pas faire l'abstraction de l'Afrique, qui a déjà donné pas mal de matières premières cosmétiques avec du succès. Hein. Je pense au karité, la gomme d'acacia, la vanille de Madagascar, etc. Mais je pense que dans la Grande Muraille Verte, il y a aussi ce potentiel. Déjà, ce qui plaît aussi, c'est le côté sociétal. Il y a quand même, c'est un projet panafricain. Des pays se réunissent. Aujourd'hui, il y a de bons chercheurs avec de bons niveaux, etc. Je crois que l'échange entre scientifiques, il est très important. Et ça, cette circulation de connaissances, elle est très importante. Et je pense, c'est sûr, toute la barrière, la Grande Muraille Verte, je veux dire, c'est un creuset de biodiversité. Moi, j'ai vu des plantes qui mériteraient largement de se pencher dessus, etc. Alors en plus, comme à la fabrique végétale, on travaille beaucoup les sous-produits, mais toute transformation du végétal va entraîner des sous-produits qu'il faudra valoriser. Et ça s'inscrit notamment dans le plan qui vient d'être édité par l'OUA, l'Union des pays africains, sur une grande politique d'économie circulaire en Afrique, où il y a d'énormes challenges aussi à relever. Mais ils ont des sous-produits très intéressants. Et je pense que pour tout ce qui est le volet principe actif, il y a vraiment des plantes sur lesquelles d'ailleurs GreenTech a déjà développé des innovations. Et je pense que nous, industriels, l'important, c'est d'apporter peut-être la valence valorisation, avec, comme le disait Jean-Yves, un juste retour aux producteurs, de manière à créer une véritable économie en ce qui nous concerne, de la cosmétique, du végétal, etc. Mais encore une fois, j'insiste sur la collaboration scientifique qui est indispensable. J'espère qu'on a dépassé le temps de la condescendance un peu occidentale vis-à-vis de tous ces pays, parce qu'aujourd'hui, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à nous apprendre.
Jean-Yves Berton, que vous inspire la Grande Muraille Verte, la recherche scientifique autour de cette Grande Muraille Verte, et puis quels échanges on peut vous réimaginer ?
L'un des tout premiers actifs qu'on a lancé en cosmétique il y a plus de 25 ans, 30 ans maintenant, venait du Sénégal. Et on parlait de la bonne recherche, c'est provenu de l'hibiscus. Et comme vous savez, l'hibiscus, le bissap est coloré, ce qui pose un problème en cosmétique, la couleur. Et au-delà de la couleur, c'est la perte de la couleur, c'est-à-dire la stabilité de la couleur dans le temps. C'est dû à des anthocyanes, vous savez que c'est sensible à la lumière notamment. Donc tout de suite, notre préoccupation, c'est de dire, mais est-ce qu'on ne peut pas trouver des hibiscus sans anthocyanes ? Et il y avait déjà eu une sélection au Sénégal d'hibiscus blanc. D'ailleurs, ce qui est amusant, on est à Poitiers aujourd'hui, c'est sous l'impulsion d'un professeur de Poitiers, le professeur Pousset, qui a avait, avec des chercheurs du Sénégal, mis en place cette sélection. Donc on a travaillé sur du Kigélia, on a travaillé sur du baobab, enfin bon, on a travaillé beaucoup sur des plantes africaines, toujours, encore une fois, avec un juste retour des choses et une aide hein, au travail local. Et puis effectivement, quand on va là-bas, on se rend compte que y a une dynamique qui est très très forte. On voit des chercheurs qui sont motivés, qui sont d'ailleurs bien formés, soit sur place, soit en France, soit ailleurs, et qui veulent développer des choses dans leur pays. Et tout ça, ça nous permet d'avoir confiance, puisqu'encore une fois, on est des industriels, donc il nous faut du sourcing qui soit là, hein, qui ne soit pas comme ça perdu. Et donc ça, c'est rassurant. Et donc la grande muraille verte, pour nous, c'est très important, parce que je disais tout à l'heure qu'on avait une multiple activité. On a une activité en cosmétique, on a aussi une activité en agronomie. On parlait tout à l'heure du développement racinaire, la structure du sol, la préparation des plants. On va apporter, nous, des micro-organismes. On fait une sélection de micro-organismes que l'on va apporter au jeune plant avant sa plantation, qui va commencer à coloniser les racines, qui va permettre le développement de ces racines, structurer le sol par la suite, parce qu'on va en apporter aussi sur le sol. Et donc on a une bien meilleure reprise des jeunes plants et une résistance aux plants, parce que c'est quand même un stress hein, quand il va changer d'environnement. On a aussi des micro-organismes pour le compostage notamment. Antoine parlait de valorisation des déchets. Donc il y a des valorisations en termes de cosmétiques. On peut faire des nouveaux ingrédients, soit directement par extraction, etc., ou soit par transformation, là aussi bactérienne. Mais on peut utiliser ces micro-organismes pour faire du compostage et faire de la matière organique, de l'amendement organique. Or, on sait que la muraille verte, elle est déjà là pour un souci économique, mais aussi de protection de l'environnement, le désert qui avance. Et donc, on a besoin d'apporter de la matière organique pour faire pousser les plantes. La gestion de l'eau à travers le traitement des eaux par les micro-organismes, des eaux qui stagnent, qui puent, qui est polluée, qui porteurs de maladies, les insectes qui s'en nourrissent et les piqûres, etc. Donc, on va traiter cette eau là aussi avec des micro-organismes que l'on fait dans certains pays africains sur des lagunes hein, notamment ou au Moyen-Orient et également en France bien sûr. Donc c'est tout un environnement, un concept assez global, hein, systémique hein, de l'environnement. Et bien sûr tout ça se fait localement avec, encore une fois, et c'est ça qui est intéressant, ici à Poitiers il y a de nombreux chercheurs de différents pays africains et c'est très intéressant de pouvoir les rencontrer et d'essayer d'élaborer des collaborations ensemble pour travailler dans le même sens et développer cette fameuse muraille verte, grande muraille verte, qui va permettre de protéger au niveau géographique, mais aussi développer l'économie, parce que sans économie, il n'y a plus grand chose qui, surtout aujourd'hui, où on cherche un peu le fond de la lessiveuse, hein, si je parle en Auvergnat, qui se vide de plus en plus, voilà.
Justement, en termes de développement économique, je voulais vous poser la question, un peu la réflexion. La valorisation des plantes médicinales et des plantes dédiées à la cosmétique peut-elle, selon vous, apporter un développement économique aux populations locales en Afrique? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, selon vous, parce qu'on en parle, voilà, mais déjà des choses qui se font, voilà, mais quelle est un peu votre impression à vous?
Il y a un grand développement économique effectivement qui peut se faire. D'abord à travers l'état sanitaire, hein, il y a beaucoup c'est l'accès aux soins. Il y a des plantes qui existent. Alors on peut toujours discuter de l'intérêt du chamanisme ou je ne sais quoi. Est-ce que c'est de la magie? On y croit et ça marche ou ça marche pas. Mais bon, c'est pas grave, etc. Par rapport à la médecine occidentale qui elle aussi a ses limites d'ailleurs. Mais en tout cas, il a été montré qu'il y avait des plantes qui fonctionnaient. Je prends l'exemple de la pervenche de Madagascar qui pouvait être utilisée. Et quand les chercheurs occidentaux se sont penchés dessus, ils ont compris pourquoi ça marchait. Je pense à une plante aussi cicatrisante. Et quand on se penche dessus, on trouve des molécules qui vont interagir avec la contractibilité des fibroblastes, qui est déjà la première étape de la cicatrisation, qui vont intervenir sur la synthèse de collagène, la biosynthèse de collagène. Donc tout ça, sous des aspects un peu rudimentaires, ont une vraie valeur scientifique et s'expliquent hein, par nos recherches. Donc oui, bien sûr que c'est un grand volet. On cherche beaucoup de diversité. Hein. Je rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, il y avait plein de laboratoires pharmaceutiques, et qui, ça existe encore, hein, qui utilisent tout ce qui est bioinformatique, etc., pour développer du criblage à haut débit, etc., de différentes molécules. Mais ce criblage à haut débit part de la même structure moléculaire du départ et ensuite on fait des dérivés de ces structures moléculaires. Donc il faut trouver d'autres structures moléculaires qui vont permettre, le taxotère par exemple est issu de là, là aussi un autre ancien anticancéreux d'une grande étude du NIH dans les années fin des années 60 et qui a montré que certaines nouvelles structures pouvaient avoir des activités très fortes pharmaceutiques et notamment anti-cancer. Donc oui, il y a un gros développement à faire. Et localement, c'est-à-dire qu'on peut imaginer très bien un système d'extraction locale, on peut un système de mise en forme du produit cosmétique et une vente et à l'export également de ces produits cosmétiques. Donc, bien entendu, oui, un grand développement économique.
Vous voulez ajouter quelque chose, Antoine Piccirilli, sur cette idée de développement économique lié aux plantes cosmétiques et médicinales?
Oui, tout à fait. Je pense que effectivement, il y a déjà des expériences réussies. Hein. L'industrie du karité en Afrique, je dirais, chez à peu près plus de 80% des acteurs de cette filière, ils sont installés là-bas avec des usines d'extraction et de purification, etc. C'est un exemple. Donc, ça crée de la valeur localement. Ça, c'est certain. Mais en même temps, je pense qu'aussi le fait de développer peut-être en local des ingrédients, ça va générer aussi des rentrées de devises, vu que c'est quand même, je dirais, les pays développés qui vont utiliser ces matières premières. Mais localement, la cosmétique africaine, qui se développe à grande vitesse, hein, il y a trois gros acteurs de fabricants de produits cosmétiques en Afrique qui ne feraient pas lire certains façonniers européens, etc., ou fabricants européens. Donc voilà. Et je pense qu'eux aussi peuvent monter en gamme en termes de cosmétiques, avec des produits plus sécurisés, des produits plus standardisés, et avec, encore une fois, une cosmétique plus adaptée aux peaux africaines, plus adaptée aux rides africains, en utilisant leurs plantes, etc., etc. On est presque dans ce qui s'appelle en Chine les traditional Chinese medicine. Donc, eh ben, il pourrait y avoir des traditional African medicine, que ce soit d'ailleurs dans le domaine. Alors, la chance de la cosmétique, elle peut générer plus rapidement de la valeur, parce que la pharmacie a des processus très très longs, extrêmement long de rentabilité. Les médicaments à base de plantes, ben, on en développe de moins en moins. Alors après, il y a l'alimentaire, il y a le complément alimentaire, il y a la nutrition, etc., qui peuvent aussi amener de la valeur. Mais je pense qu'en termes de réactivité, quand même, ça reste la cosmétique qui peut amener beaucoup plus de retours. Et encore une fois, aujourd'hui, plus personne ne construit des filières en pressant les fournisseurs, je parle dans la cosmétique, parce que dans le sens où vous avez un produit fini qui dépend d'une matière première, vous ne pouvez pas mettre en danger votre produit fini par une rupture de la chaîne. Mais par contre, cela demande à repenser la chaîne de valeur. Et il y a des grands chimistes qui ont déjà commencé, hein, comme Arkema sur le ricin et tout, ils savent qu'ils doivent vraiment, entre guillemets, bichonner leurs fournisseurs. Et en même temps, travailler avec eux pour augmenter les rendements, augmenter la qualité, etc. C'est un travail. Je dirais, c'est de l'amélioration continue, hein, c'est un peu comme la qualité. Donc ça, on ne s'arrête pas. Et donc, mais moi, je crois vraiment que c'est une source de valeur et une source aussi de création d'emplois là-bas. Aussi, de mieux maîtriser aussi tous ces mouvements migratoires, parce qu'on ne quitte jamais son pays par... avec le grand bonheur, je veux dire, il y a une immigration contrainte. Si aujourd'hui on peut fidéliser, faire travailler les gens au pays, avec une véritable génération de valeur, et en plus répondre aussi aux besoins d'une jeunesse, c'est quand même un continent très jeune, je veux dire, d'une jeunesse qui a des attentes très fortes, qui est aujourd'hui connectée dans le monde entier, qui voit bien comment vivent d'autres jeunesses. Donc voilà, et elles sont en attente. Donc tout ça, c'est une progression à la fois de l'apport économique, et puis aussi de l'apport culturel, de l'apport voilà, sociétal en général.
Pierre Naudet, je vous donne la parole juste après, mais Jean-Yves Berton, vous souhaitiez réagir justement au propos d'Antoine.
Oui, je rajouterai aussi un autre point, c'est la formation scolaire, la formation universitaire qui est très importante parce que tout à l'heure j'assistais à une conférence et la personne disait c'est la troisième extraction qu'il faut utiliser parce que les deux premières sont trop fortes et peuvent être toxiques. Et effectivement, alors, bon, déjà, on peut se dire, tiens, si c'est toxique, c'est que c'est actif, hein, parce que des fois, on dit, tiens, on va utiliser la plante comme ça traditionnellement. Mais finalement, ça peut être toxique. Ben, tout le monde connaît l'efficacité de la ciguë, hein, par exemple. Mais bon, ce qui veut dire d'ailleurs que ça peut être toxique ou bénéfique. Mais Quand je dis ça, c'est ce qu'il faut, c'est une rationalisation. Si on veut industrialiser la filière, il faut bien comprendre ce que l'on fait. Il faut comprendre les plantes. Eh ben, ça varie. Hein. L'année dernière, il a plu tout le mois de juin, tout le mois de juillet. Cet été, il a fait plutôt sec. Les arbres ont souffert. Et donc, on peut penser que la physiologie de l'arbre est un peu différente entre l'année dernière et cette année. Ça veut dire que quand on va prendre des feuilles d'un arbre qu'on a l'habitude d'utiliser, une année, ça va être toxique parce que trop fort. Une autre année, ça n'aura aucune efficacité parce que trop faible en contenu moléculaire. Et donc, on peut imaginer, donc ça fait partie de la formation, en disant, tiens, il y a une étude à faire, il faut regarder, il faut mesurer, il faut avoir une certaine rigueur dans notre fabrication, donc des contrôles qualité, et puis étudier en fait les bonnes doses pour pouvoir standardiser les produits et en faire des produits comme on peut trouver dans nos rayons ici à Poitiers ou ailleurs, qui sont standardisés. Si on prend la crème aujourd'hui ou l'année prochaine, ce sera toujours la même crème et la même efficacité. Donc, je rajouterai, oui, la formation, qui est certaine, voilà, c'est le précurseur de l'économie aussi, puisque sans formation, on ne va pas faire grand-chose.
Et oui, et c'est sur cet aspect formation que des partenariats pourraient se développer aussi, effectivement, je comprends bien. Pierre Naudet, sur, effectivement, un peu le développement économique pour les populations locales de plantes médicinales, plantes cosmétiques, agroforesterie aussi.
Oui, alors peut-être plus nous concernant agroforesterie, parce qu'on a peu d'expérience sur la partie cosmétique et médicinale. On le voit, hein, si on peut faire un parallèle avec ce qu'on vit en France aujourd'hui, il y a des vraies questions qui se posent sur la diversification des revenus dans les campagnes. Donc on peut imaginer que c'est la même chose aussi en Afrique. On a des productions agricoles traditionnelles et aujourd'hui l'agroforesterie, la forêt vient amener des nouvelles possibilités de production. Alors moi j'ai pas la connaissance de ce qui se fait là-bas localement, mais bon, évidemment la production de fruits, la production de bois pour la construction, la production de bois énergie qui est essentielle là-bas. Je sais que nous ici on produit des truffes, je sais pas si on pourra cultiver des truffes au Sahel, mais bon voilà, en tout cas il y a des choses qu'on va découvrir et qui vont évidemment permettre la création de filières locales, parce que c'est ça qui va faire que les communautés vont prendre soin en fait de ces arbres plantés.
Vous avez déjà des envies ou des projets là-bas dont on peut parler ce matin?
Tout cela reste relativement confidentiel, mais oui, moi j'ai pris pas mal de contacts. Donc voilà, après il va falloir que je potasse aussi parce que ça a été très riche. Donc ils ont tellement fait de bibliographies, de recherches, de compilations, de croisements de données, etc. qu'il faut digérer ça. Mais je pense oui, j'ai des contacts et notamment sur des producteurs d'huile, des choses comme ça. Donc voilà, on va tisser une toile. Mais non, il y a des choses très très intéressantes, ça c'est certain. Donc voilà, bon, je ne vais pas m'arrêter là, c'est certain. D'autant qu'en plus, on a des activités à la fabrique végétale en Afrique. Hein. On valorise un sous-produit du karité, par exemple, qui est un super biopolymère pour la cosmétique. On travaille aussi sur différentes plantes africaines. Donc voilà, c'est quelque chose qui nous intéresse. Et donc voilà, on va rester connectés, et notamment dans ces pays de la Grande Muraille. Voilà.
Très bien. Jean-Yves Berton, vous souhaitiez ajouter quelque chose?
Oui, rapidement, je voulais dire qu'on travaille déjà avec des pays d'Afrique. Hein, je signalais l'hibiscus et le Sénégal, le baobab et un village pour le baobab et le Burkina Faso. Soit dit en passant, c'est les femmes hein, qui... On travaille là avec des femmes. C'est les femmes qui s'occupent de tout ça. Et il ne faut pas leur enlever le travail parce que sinon, elles ont du caractère. Et on a aussi des clients. Antoine parlait des grandes marques. On travaille avec ces grandes marques en Afrique où on leur vend nos ingrédients qui viennent donc pourquoi pas travailler sur directement. Et c'est vrai que la Grande Muraille verte, finalement, elle va être un catalyseur de tout ce qu'on peut faire et une structure organisationnelle de tout ça. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'à la fois on parle de cosmétique, on peut parler d'autres choses, et même si on parle que de cosmétique, on va avoir la filière du sourcing jusqu'au produit fini, et c'est ça qui est formidable. Et du coup on va avoir plusieurs interlocuteurs certes, mais tout le monde dans le même but et assez bien localisé. Voilà.
Didier, une réaction après ce qu'on vient d'entendre?
Oui, deux mots pour dire que moi je remercie les intervenants parce qu'ils confortent l'intuition qu'on avait eue il y a quelques années sur la capacité dans la chaîne de valeur qui environne la Grande Muraille Verte à pouvoir fixer de la connaissance pour l'emploi local et pour ne pas refaire l'erreur du développement économique de ces 50 ou 60 dernières années où la matière première était achetée 1 et les marges à 10 ou 15 ou 20 venaient en Occident, soyons très clairs. Donc à partir de là, dès l'instant où on a fait cette analyse, nous on s'est dit on a besoin d'aider non pas les projets économiques mais la réflexion sur des projets économiques en designant une sorte de carte des savoir-faire de la Grande Muraille Verte. Et à partir de 2026, puisque l'Institut Balanites va devenir africain, entre l'Éthiopie et ses capacités de biodiversité liées à l'agroforesterie de manière explicite, et donc les leçons qu'on peut en retirer, le Tchad et sa plateforme sur l'eau, l'hydrogéologie et la pédologie, et le travail qu'on mène dans le cadre d'un Erasmus sur le numérique au service de l'observation des parcelles expérimentales au Sénégal, je pense qu'on vient d'avancer d'un cran et on peut répondre de manière tangible à des besoins. Antoine l'a rappelé tout à l'heure, il y a un moment où, quand on passe à l'industrialisation, dans la chaîne de production, on a besoin d'avoir confiance dans le local pour être en confiance avec son produit. Et donc l'idée, c'est que les acteurs de ces trois projets dans ces trois pays puissent d'abord dispenser leur savoir et leur connaissance aux 8 autres pays, le partager, et deuxièmement puissent devenir les interlocuteurs de projets économiques futurs, mais dans la déontologie que vous avez décrit et que nous partageons bien entendu, du respect local et dans une vision où la fixation d'un emploi local, c'est aussi un emploi à valeur ajoutée. Donc voilà, je voulais juste finir en disant que le projet de parcelle expérimentale qui a une vocation numérique a été designé de telle manière que tout le monde puisse s'y retrouver. On parlait du travail des femmes. Il y aura 5 hectares de parcelles dédiées à du travail maraîcher où on travaillera également sur la qualité de l'eau et où on créera les conditions d'un centre de formation. Et une autre parcelle de 5 ou 6 hectares est entièrement dédiée à l'amélioration de la partie agroforesterie. Parce que la Grande Muraille Verte, ça fait 25 ans qu'on plante et on a l'impression qu'on sait tout faire. Et en fait, nos amis africains nous rappellent qu'ils ont besoin d'avancer. Donc l'idée, c'est d'avoir des laboratoires à ciel ouvert qui soient aussi à disposition du monde économique et social. Mais je pense qu'on sera amené à en reparler. Mais encore une fois, tous les trois, je voulais vous remercier. J'espère que nos auditeurs apprécieront la qualité de ce que vous avez dit. Surtout, vous fabriquez de l'espoir. Et je crois que dans le dialogue interindividuel que vous avez pu avoir avec nos amis africains, vous fabriquez aussi de l'espoir. Moi, j'ai eu deux, trois contacts là à l'instant, juste avant cette table ronde, qui montrent que c'est ce dont ils ont besoin en ce moment.
Merci à nos invités. Merci à vous de votre écoute. C'est la fin de ce podcast. Retrouvez toute l'actualité de l'Institut Balanites et d'autres podcasts sur le site institutbalanites.org.